Mes salutations à tout le monde, bien le bonjour. Vous êtes sur Radio Guimau, la meilleure radio du lycée Guimolé. Normal, il n'y a que celle-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet d'actualité de ces derniers jours. Roulement de tambour ? Non, je rigole, on n'a pas le budget pour ça. Bref, aujourd'hui, nous parlons d'école. Ah, l'école, un endroit d'amour, de paix et de tranquillité, où chaque enfant, ado, adulte, personne âgée, coccinelle, tulipe, abeille, poisson, chat, tortue, crabe, ornithorynque... Attendez, je me suis trompée de texte, là. Bref, revenons à notre sujet. Cet endroit, aussi bien décrit précédemment, ne fait malheureusement pas l'unanimité totale. En effet, nos chers journalistes, que dis-je, nos prodiges du lycée Guimolé, vous ont concocté un sujet de débat sur l'école. Sans plus tarder, nous commencerons avec Kélia et Eve, qui nous ont préparé une interview sur l'organisation des établissements scolaires dans notre pays et les horaires. Eve et Kélia, c'est à vous.
Le nombre et les heures de cours sont les plus nombreuses, c'est la Chine, avec une moyenne de 10 heures de cours par jour, à contrario de la Finlande avec une moyenne de 5 heures. En primaire, la France est classée 11e pays à avoir le plus d'heures de cours, avec une moyenne annuelle de 864 heures, avec des vacances environ tous les deux mois, 16 semaines au total. Le savez-vous ? En France, on préconise 1h à 1h30 de devoirs par jour. Les élèves rentrent chez eux tard, et à peine ont-ils le temps de se poser que le travail les attend de nouveau. Suite à cela, ils dorment moins et sont donc moins productifs en classe.
Le manque de productivité et d'attention des élèves dû au manque de sommeil affecte les résultats scolaires. Par exemple, en 2022, la moyenne des résultats du concours PISA, programme international pour le suivi des acquis, s'élève en France à 487 en sciences et à 474 en mathématiques, ce qui est raisonnable. PISA sert à évaluer et jauger les performances des élèves et donc situer leur niveau. Et on constate que la Finlande, avec ses 5 heures de cours en moyenne, a un score plus élevé que celui de la France. Mais seulement, est-ce le statut d'élève qui fait d'un enfant ce qu'il est ? N'y a-t-il pas d'autres moyens de développer son potentiel à travers des loisirs ou autres activités ?
Kélia et Eve, merci beaucoup pour cette chronique très enrichissante. Vous nous avez appris plein de choses sur d'autres visions de l'école en dehors de notre pays. Et maintenant, nous accueillons Célia et Savannah qui vont nous parler des notes à l'école. Célia et Savannah, l'antenne est à vous.
Pour ou contre l'abolition des notes ?
Eh oui, c'est une question qui divise, qui fait souvent débat dans la société actuelle.
C'est pourquoi nous avons recueilli des témoignages d'élèves et d'enseignants du lycée Guimolé.
Certains sont pour l'abolition des notes, d'autres s'y opposent. Ils proposent des solutions.
Mais attends, pour l'abolition, mais pourquoi ?
Attends, je t'explique. Les élèves sont majoritairement pour l'abolition des notes, puisque cela catégorise les élèves en fonction d'un niveau, d'une note, alors que l'intelligence ne s'arrête pas qu'à ça, sans oublier les conséquences qui suivent, c'est-à-dire la comparaison entre élèves, qui amène à cette peur du jugement, mais la comparaison des parents et des notes d'un élève à un autre reste la pire. Tu comprends que cela met une pression, un stress, une peur d'échouer, qui suit avec cette fixette sur la moyenne générale, c'est pas normal. Surtout que d'un établissement à un autre, ou même d'une classe à une autre, les notes n'ont pas la même valeur. Ça ne veut plus rien dire. Bref, revenons à notre super jugement. Des remarques telles que « intello »,« cancre », »,« plus ou moins bête », voilà comment sont qualifiés certains élèves, en fonction de leur niveau. Même dans d'autres pays, zéro est considéré comme nul. C'est inadmissible. Heureusement pour nous, des solutions ont été proposées, telles que les codes couleurs, plus faciles à obtenir, plus motivants. Les lettres A, B, C, qui jouent le même rôle avec un meilleur accompagnement, meilleur objectif à se fixer, avec moins de jugement. Il y a ensuite des paliers de 1 à 5, des notes moins stressantes, mais encore une médiane qui permettra d'avoir une moyenne plus juste, qui reflète un réel niveau de ce qu'on a acquis, pas acquis ou même en cours d'acquisition, sans oublier les petits commentaires motivants. Mais alors, je comprends pas, pourquoi certains s'y opposent ?
Attends, je t'explique. Les notes, c'est un repère clair pour les familles et les élèves. Cela permet de mesurer une progression. De plus, si elles sont accompagnées d'une grille d'évaluation détaillée avec des conseils personnalisés, elles sont donc efficaces. La note, c'est juste un outil pour accompagner la scolarité des élèves, sachant qu'il ne faut pas perdre de vue que les notes ne sont qu'un avant tout, une évaluation pour rendre compte d'un travail effectué. Que celui-ci doit être fait avec sérieux et régularité afin d'acquérir des connaissances. C'est le rôle de la note qui a à définir et non la vision d'une personne. Mais bon, plutôt que de vouloir les abolir, il faudrait revoir leur place dans le système scolaire.
Mais attends, justement, les élèves sont très attentifs à leurs notes, puisque cela conduit à une moyenne générale qui détermine s'ils sont promus ou non, tu vois. Cependant, mais les notes n'ont pas toutes la même valeur, puisque chacune a son coefficient, ce qui change leur importance. Ça me paraît logique.
C'est vrai. Mais bon, on peut ajouter que le travail non noté amène à moins d'enthousiasme des élèves, car ils ne sont pas amenés à recevoir une notation. Mais bon, alors que cela ne leur donne ni pression ni mauvaise appréciation pouvant conduire au facteur de stress.
Merci bien Célia et Savannah pour cette chronique intéressante. Nous poursuivrons avec Pierre. Pierre qui nous a fait une interview d'une élève qui a souhaité garder l'anonymat et une chronique sur la force mentale à l'école. Pierre, c'est à vous.
Je dois avouer que je me sens assez mal au lycée quotidiennement. C'est-à-dire que j'éprouve du stress. C'est assez compliqué de venir au lycée car les horaires ne sont déjà pas très abordables. Enfin, pour moi, je pense que c'est assez compliqué. Au niveau des cours, des professeurs et surtout, scolairement, c'est assez compliqué pour suivre par exemple les cours. Pour se retrouver, c'est très stressant, étant donné qu'il y a les épreuves. On est au lycée, donc forcément qu'il y a les questions de bac. Il y a aussi tout ce qui est contrôle continu, donc forcément que c'est très stressant. Et on se sent peut-être parfois pas à notre place, car il y a peut-être des élèves qui sont plus forts que nous. Et du coup, on peut se rabaisser très souvent.
Peux-tu me raconter ce que tu as vécu ?
Alors, tout d'abord, faut savoir que j'ai vécu du harcèlement. À partir de la CP, sauf qu'au début, je m'en rendais pas compte. Et j'ai commencé à m'en rendre compte fin CM2. Et en 6e, ça a empiré parce que du coup, les gens grandissent. Ils deviennent plus matures et du coup, les mots sont de plus en plus importants. Donc de ma 6e, je dirais, jusqu'à fin de 3e. Et je l'ai assez mal vécu. J'avais un gros manque de confiance en moi. J'ai eu un peu de l'anorexie, parce que j'ai complètement arrêté de manger, parce que c'était des critiques qui étaient répétitives. Le mal-être, il était assez présent, c'est-à-dire que j'avais plus du tout envie de venir en cours, je savais pas comment en parler, il y avait des menaces aussi, de si j'en parlais, il pouvait m'arriver largement plus pire que ce que je vivais. Et j'avoue que j'ai eu du mal à me retrouver et à surtout reprendre confiance en moi.
Comment vis-tu ta phobie scolaire et quelle phobie scolaire as-tu ?
Alors, ma phobie scolaire est assez compliquée à aborder. Je dirais plutôt que je la vis mal. Je pense qu'une phobie scolaire, c'est pas quelque chose qu'on peut aborder très facilement. C'est quelque chose d'assez complexe et c'est différent pour chacun. Je décrirais ma phobie scolaire comme... Je vais pas dire que c'est la plus importante, car je pense qu'il y a des personnes qui vivent plus mal que ce que je vis. Mais personnellement, ma phobie scolaire, c'est des mal de ventre, des boules au ventre constants, j'ai peur d'aller au lycée, j'ai du stress, j'ai peur de voir les autres élèves, j'ai peur des regards des autres. Et c'est assez stressant, l'environnement, tous les élèves qu'on peut apercevoir, parce que je suis pas très sociale. Comme c'est un grand lycée qui a beaucoup d'élèves, c'est compliqué de s'y retrouver. Et surtout compliqué à regarder les autres et tout le monde.
Comment te sens-tu lorsque tu vas au lycée et lorsque tu es au lycée ?
Alors tout d'abord, quand je vais au lycée, je prends le bus. Donc j'essaie de me décontracter, de ne pas stresser, de ne pas y penser. Du coup, j'utilise plusieurs façons, comme la musique. Comme ça, moi, j'y pense pas ou je dors, sinon, la plupart du temps. Et quand je suis au lycée, j'ai l'impression que tout s'effondre. C'est-à-dire que je suis au lycée, je me dis que ça va être encore une longue journée, j'espère qu'elle passe vite, je compte le nombre d'heures qui me reste pour savoir jusqu'à quand je vais finir cette journée. Quand je suis au lycée, j'ai peur de tout le monde, enfin je vais pas dire de tout le monde non plus, j'ai quand même un groupe d'amis. Ce que je veux dire, c'est que regarder les autres et avoir peur du jugement, c'est compliqué.
Pour toi, comment les écoles peuvent-elles aider les personnes qui sont aussi dans ton cas ?
Alors, faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en place dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui sont là, des infirmières, etc. Après, je pense que les élèves ont du mal à s'exprimer, ce qui est normal, parce que soit ils peuvent avoir des complications avec leurs parents, ils osent pas s'ouvrir aux autres, ce qui est normal. Je pense que les écoles, justement, au niveau des enseignants, ils peuvent voir que les élèves ont mal ou voir un changement dans leur comportement, comme par exemple des baisses de notes, le travail est moins fréquent et bien d'autres choses. Et à partir de ce moment-là, je pense que les enseignants ou même tout ce qui est les CPE et autres peuvent le remarquer et justement, ils peuvent les mettre en relation avec des psychologues ou bien en parler directement avec leur professeur principal qui là vont essayer de les aider, de les rassurer, de voir les points qui vont mal. Donc je pense que effectivement les écoles peuvent aider, mais après ce n'est pas dans le cas de tout le monde.
Et pour finir, de ton point de vue, quelle force mentale faut-il pour un élève en général, par exemple ?
Alors, il y a différents types de force mentale, mais je pense honnêtement que, je vais prendre mon cas, niveau de force mentale, il faut être très courageux, parce que c'est vrai que la pression, c'est compliqué à gérer, surtout si on est anxieux, si on stresse pour rien, si on a peur de tout en général, qu'on a une mauvaise note, on est dans le plus mal total. Et je pense que niveau force mentale, faut vraiment être fort, encaisser tout et surtout en parler. C'est vraiment la chose essentielle.
Après cette interview émouvante, Pierre, place à ton témoignage.
L'anxiété, la phobie scolaire, la dépression, le harcèlement et malheureusement, cela n'est que le début d'une longue liste de ce que doit supporter un élève chaque jour à l'école. La boule au ventre, c'est ce qu'ont beaucoup d'élèves lorsqu'ils viennent en cours. Et cela parce qu'ils ont peur. Peur de cette solitude qu'ils subissent chaque jour. De devoir taire leurs souffrances quotidiennes causées par les élèves qui se moquent pas mal durant de leurs victimes. Et l'école dans tout ça ? Eh bien, rien. Elle n'intervient pas. À part quelques sanctions qui ne changeront rien à la tourmente de l'élève. Et parfois, elle est même actrice de ce qu'ils endurent. Hélas, ce n'est pas tout. Les cours sont une véritable source de pression mentale. Et pourquoi ? Car un élève doit toujours veiller d'avoir des bonnes notes, à bien se comporter, à écouter en classe. Mais comment voulez-vous qu'un adolescent ou même un enfant puisse supporter cette pression jour et nuit ? Car oui, même la nuit, un enfant peut être tourmenté par l'anxiété que leur génère cette simple idée d'aller à l'école. Et je ne vous parle même pas des notes qui sont une des causes principales d'angoisse chez les élèves. La plupart du temps, cela dévalorise l'élève et peut provoquer une baisse de la confiance de leur propre capacité. Au fil du temps, ce stress se transforme en véritable phobie scolaire et voire en dépression. Il n'a plus envie d'aller en cours. Et pourtant, il faut bien qu'il y retourne. Dans cet endroit qu'il appelle enfer, ce même lieu est parfois la cause de suicide. Selon l'Éducation nationale, 8% des étudiants ont pensé au suicide et 4% tenté à mettre fin à leur jour. Malheureusement, nous ne comptons pas ceux qui se taisent et pourtant qui subissent l'enfer que tout le monde appelle école. Tout ce qu'ils demandent, victimes de cet enfer, c'est d'être compris et aidés. Et vous, êtes-vous prêts à les aider ?
Merci Pierre, c'était très intéressant. Et oui, mes chers amis, l'école n'est en réalité pas si agréable que ce qu'on vous dit. Pour certaines personnes, c'est une vraie épreuve. Maintenant, un sujet qui divise, le débat de Lola, Lisa et Jade sur le port de l'uniforme à l'école.
Je suis pour l'uniforme, car pour moi, ça apporte une égalité au sein du lycée. Et pour les personnes qui ont moins d'argent, ne se sentiront pas inférieures par rapport aux personnes qui ont les moyens.
Mais le port de l'uniforme peut faire qu'il y a moins de liberté pour les jeunes, surtout pour ceux qui expriment leur personnalité à travers leurs vêtements. On ne peut pas renier ces personnes-là.
Bah, y a clairement d'autres façons de s'exprimer, comme la coiffure, le maquillage, ou même la manière de parler et d'agir.
Bah, personnellement, je suis plus d'accord avec Lisa, car voir la même chose tous les jours dans le miroir, ça peut être très monotone. Et sachant que c'est une tenue dans laquelle on ne se retrouve pas forcément, ça peut faire déprimer et faire baisser l'estime de soi.
Mais on peut très bien s'habiller autrement chez soi ou même le week-end.
Mais quand tu regardes, on passe la majeure partie du temps au lycée, c'est-à-dire 5 à 6 jours sur 7. Et si on porte l'uniforme, ce serait peut-être une tenue inconfortable ou qui ne nous plaît pas. Enfin, on serait habillé de la manière qu'on aime juste un jour, voire 2 sur 7. C'est trop peu.
Nous ne savons même pas encore quel type d'uniforme pourrait être imposé. Surtout qu'il n'y aura plus d'harcèlement par rapport à ça.
Oui, mais tu sais, les élèves trouveront toujours le moyen d'être méchants et de critiquer, peu importe la tenue qu'on porte.
Bah alors le problème ne vient pas de la tenue, mais de l'élève.
Bah dans ces cas-là, pourquoi on changerait les tenues si c'est pas ça le problème ?
Et surtout que généralement, les jeunes, ils n'approuvent pas ce qui leur est imposé par des adultes, et d'autant plus à un âge où ils apprennent à se faire leur propre opinion, et justement à plus faire de mimétisme comme étant enfant, donc ce serait les infantiliser.
Mais l'uniforme apporte un esprit de discipline et d'équipe, car ça nous donne une sorte d'appartenance à un groupe. Et pour répondre à ta question, Lisa, ça stoppe les débats concernant les tenues jugées indécentes, comme les crop tops ou encore la baïa.
Mais réinstaurer l'uniforme, ce serait un retour au système ancien et il ne faut pas vivre dans le passé.
Oui, mais au moins on évite la surconsommation vestimentaire.
Il ne faut pas oublier aussi que ça peut être trop coûteux pour certains parents, à moins qu'il y ait des aides, évidemment.
Bah, je pense qu'il y en aura. Et au moins, ça, on peut aller vers tout le monde sans préjugés.
Oui, mais le sujet de la tenue est tellement secondaire. Il y a beaucoup plus important comme les valeurs ou la discipline ou juste les cours qu'on apprend. Et je trouve qu'il faudrait laisser les gens s'habiller comme ils le veulent et s'occuper de vrais sujets beaucoup plus importants.
C'est sûr, l'idée d'un uniforme est compliquée, surtout par rapport au passé. Les stéréotypes, la fille en jupe, mais attention, il ne faut pas qu'elle soit trop courte. C'est là que la question du féminisme et de l'hypersexualisation du corps de la femme peut se poser.
Ah, enfin, nous sommes d'accord sur un point. Le corps de la femme est encore beaucoup trop sexualisé et la femme trop discriminée. C'est un véritable fléau.
On est d'accord que c'est un problème encore beaucoup trop présent et c'est pour ça qu'on continuera encore et encore à se battre pour l'égalité et un jour, on y arrivera.
Nous vous remercions pour ce débat qui ne manque pas d'arguments. Passons directement à la suite des relations entre profs, élèves et le manque d'accompagnement. Cette interview est présentée par nos deux journalistes de Guimolé, Chloé et Morgane. Pensez-vous que vous entretenez une bonne relation avec vos élèves ?
Alors, ça dépend des élèves. J'ai envie de dire que la plupart du temps, oui. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais l'impression que les élèves ont n'est pas toujours la même que celle qu'on a. Donc, globalement, je dirais que oui, avec un petit bémol.
Oui, je pense. Après, c'est très variable d'une année sur l'autre, d'une classe à l'autre. Les élèves sont tous très différents, donc forcément les relations qu'on va entretenir avec nos élèves et nos classes vont être, peuvent varier, mais en général, oui, en général j'entretiens de bonnes relations, j'ai d'anciens élèves qui me recontactent régulièrement, avec qui j'ai des échanges, qui me racontent ensuite leur parcours, et oui, en général c'est plutôt positif. Ouais.
Alors j'essaye, donc je vois qu'à la fin de l'année, au départ il y a déjà une relation de travail que je vais instaurer, et après petit à petit, comme je fais des groupes avec les exercices, c'est là où je suis en relation directe avec l'élève en particulier et pas l'élève dans le groupe classe. Et j'essaye. Et quand je vois qu'après, à la fin de l'année, j'arrive toujours à correspondre avec mes élèves, même ceux qui sont partis de l'établissement, je pense, de façon générale. Donc après, il peut y avoir des cas particuliers, mais de façon générale, j'espère.
Gardez-vous une certaine relation avec vos élèves ou avez-vous eu des élèves préférés durant votre carrière ?
Alors oui, la plupart du temps, à la fin de l'année, après le bac, je garde des relations avec des élèves avec qui je communique via Instagram ou Facebook. Et là, par exemple, en janvier, je vais aller boire un verre avec des élèves que j'avais en terminale l'année dernière et avec qui j'ai gardé des relations pour qu'ils me donnent des informations sur ce qu'ils deviennent.
Des élèves préférés ? Non, je ne dirais pas des élèves préférés. Après, c'est vrai que au fil du temps, on noue quelques liens particuliers avec des élèves qu'on a pu aider quand ils en avaient besoin, donc forcément eux-mêmes sont reconnaissants. Mais sinon, non, des élèves préférés, non, c'est pas le mot juste. Et après, oui, ça peut arriver qu'au fil du temps, effectivement, on entretienne des relations, comme je disais tout à l'heure, avec des élèves qui gardent contact avec nous et qui nous ressollicitent, d'ailleurs, régulièrement, pour nous demander un coup de main ou tout simplement pour donner de leurs nouvelles.
Un élève préféré, non. Ça, je suis une scientifique, donc je fais les faits et c'est tout. Après, forcément, il y a, post-bac surtout, il y a des élèves qui reviennent me voir, qui me donnent des nouvelles, qui viennent même dans les classes raconter leur parcours et expliquer aux autres élèves ce qu'ils sont en train de faire pour leur dire, attention, en terminale, voilà ce qui est important, pas important à faire pour la suite.
Et enfin, comment réussir à trouver le juste milieu entre une distance trop importante ou au contraire trop faible avec vos élèves ?
Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Je crois que ça se fait naturellement. C'est vraiment une question à laquelle il est difficile de répondre. La distance avec les élèves, je pense qu'à partir du moment où on continue à aimer ce qu'on fait, ça devient possible. Mais encore une fois, c'est pas possible avec tous les élèves. Alors il y a l'histoire du vouvoiement et du tutoiement par exemple. Certains collègues pensent que vous voyez des élèves, ça aide à garder une distance. Moi c'est pas mon cas. Je pense que le respect il fonctionne pas, il passe pas forcément par le tutoiement et le vouvoiement par exemple.
Oh, elle est difficile cette question. Je sais pas, ça se fait assez naturellement en fait. Hein. Quand on est professeur, on a un statut. Donc le rapprochement, la proximité avec les élèves se fait assez naturellement. On sait mettre de la distance, parce que ce sont des apprenants. Nous, on est professeurs, on n'a pas... Enfin, on doit garder cette distance-là. Après, effectivement, difficile d'enseigner, d'être un bon professeur si on ne s'intéresse pas aux élèves. Donc en fait, ce n'est pas tellement l'idée d'être proche ou d'être... distance, c'est plutôt de s'intéresser aux élèves pour pouvoir les accompagner au mieux et les aider, de façon à ce que les élèves comprennent qu'on est là aussi pour transmettre un savoir, mais aussi pour qu'on puisse les aider à grandir. Donc on a besoin aussi, quelque part, de les connaître un peu et un peu mieux et pas être trop distant, en fait. Donc c'est une alchimie qui se fait, un mélange des deux qui se fait pour qu'on puisse aider comme il faut nos élèves.
C'est compliqué. C'est compliqué, on essaye, on tâte. Quand on voit que ça ne va pas, on les prend à part, ou eux viennent à part. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire.
C'était une interview et des réponses très intéressantes, merci beaucoup. Pour terminer, nous vous proposons une discussion sur le thème du lycée idéal.
À quoi ressemblerait, selon vous, un lycée idéal ? Ça serait un lycée avec moins d'heures et moins de matières. Pourquoi es-tu d'accord ?
Parce que je pense qu'on a trop d'heures de cours par rapport au nombre de choses qu'on peut assimiler. C'est-à-dire que on peut pas tout retenir avec autant d'heures de cours. C'est pour ça que je pense qu'il faudra en supprimer certaines. Et dont certaines matières qui sont inutiles par rapport à notre cursus d'études.
En fait, c'est au niveau des devoirs. On peut faire des journées de 8h, 18h. On rentre chez nous, on a encore des devoirs à faire. Donc je trouve qu'on n'a plus vraiment de vie à côté du lycée à cause de ça.
Donc selon vous, quelle matière sera supprimée ?
Par exemple, les matières scientifiques pour les personnes qui se lancent plutôt dans le domaine littéraire. Parce que on est en train d'étudier des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on voudrait faire plus tard.
Pourquoi es-tu pas d'accord ?
Moi je trouve que ça peut donner envie justement aux personnes qui auraient envie de changer de matière, même de filière.
Est-ce qu'un lycée idéal, selon vous, serait un lycée où les professeurs seraient plus à l'écoute des élèves ?
Moi, je suis d'accord pour que les professeurs soient plus à l'écoute, puisqu'on est les personnages principaux de l'école, et que c'est à nous de devoir donner notre avis, puisque c'est nous qui vivons notre cursus scolaire.
Moi, je suis d'accord qu'il faudrait être plus à l'écoute des élèves, même si certaines personnes sont désignées comme les délégués et sont censées les représenter. Des fois, c'est pas forcément très bien fait et ils assurent pas forcément dans leur rôle.
Mais c'est clairement la classe qui vote pour leurs délégués. Donc, si vous ne savez pas bien voter, forcément, le délégué vous pourra pas bien vous représenter.
Alors, pour moi, pour répondre à ce que tu viens de dire, c'est pas selon la personne qu'on élit en soi, c'est juste le rôle de délégué en lui-même, on lui donne pas assez d'importance au lycée, je trouve.
Et surtout qu'on n'a pas vraiment eu le choix, il y a eu que deux personnes qui se sont présentées, donc on n'a pas des classes assez motivées, ce qui fait que on n'a pas les personnes qu'on veut pour nous représenter.
On peut voter pour quelqu'un qui ne s'est pas présenté. Hein. On dit que on n'écoute pas assez les élèves, mais les élèves aussi pourraient aller vers les adultes pour discuter de leurs problèmes, tout ça. Souvent, juste, ils laissent tomber parce qu'ils pensent que c'est forcément à eux de voir quand on va pas bien ou autre.
Je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que justement, les profs, enfin, certains du moins, sont peut-être pas assez rassurants, ils donnent peut-être pas assez confiance aux élèves pour qu'ils viennent vers eux leur confier leurs problèmes parce que des fois, ça peut être des gros problèmes qu'ils ont pas envie d'en parler et que même s'ils ont envie d'en parler, ils se sentent pas assez à l'aise d'en parler avec quelqu'un qu'ils connaissent à peine.
On n'a qu'à aller voir d'autres adultes.
Il y a par exemple un psychologue, je crois, au lycée. Il y a des infirmières, il y a d'autres professeurs qui sont beaucoup mieux qualifiés que certains.
Tu nous parles de psychologues à l'école, alors oui, il y en a, mais est-ce que les professeurs nous en parlent ? Absolument pas. Depuis que je suis en seconde au lycée, on ne m'a jamais parlé du psychologue au lycée. Je sais qu'il y en a un parce que c'est dans toutes les écoles, mais on m'en parle jamais.
On l'a dû à la rentrée en seconde, quand on a fait la visite du lycée.
Moi, je trouve quand même qu'il y a pas mal de sensibilisation par rapport à ça. Il y a des affiches. En début d'année, les profs ils viennent nous en parler. Ou même des fois, personnellement, quand il y a certains profs qui voient que je ne vais pas bien, ils me disent « Ouais, je peux aller voir la psychologue ou les infirmières. » Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a assez d'écoute.
Je suis un peu à l'opposé de ça parce qu'une fois, j'étais pas bien en cours et les professeurs disent souvent « Laisse tes problèmes à la porte et viens travailler tout simplement. » Ils prennent pas assez en considération les problèmes que certains élèves peuvent avoir.
Mais il ne faut pas mettre tous les professeurs dans le même panier.
À quoi ressemblerait selon vous un lycée idéal ? Donc, est-ce qu'il faudrait des classes moins chargées ?
Moi, je suis pas forcément d'accord parce que on voit en ce moment recruter des professeurs, c'est super compliqué. On galère à en trouver pour n'importe quel niveau, que ce soit de la maternelle aux universités, surtout au lycée, au collège. Donc, je pense que faire des classes moins chargées, même s'il y aurait quelques avantages, c'est surtout un désavantage par rapport au recrutement des professeurs. Et ce serait encore plus compliqué de pouvoir assurer les cours et de trouver des professeurs qualifiés pour enseigner certaines matières.
Je peux comprendre l'argument, mais selon moi, je trouve que quand on a une classe moins chargée, qu'on est en demi-groupe, par exemple, les profs ils sont plus à l'écoute et ils nous aident plus forcément dans la matière. Tandis que quand on est en classe entière, ils ont beaucoup plus de mal à pouvoir nous aider et à écouter nos questions.
Et puis pour les élèves aussi, c'est un plus, je trouve, parce qu'en demi-groupe, on est plus à l'aise pour passer à l'oral, pour participer, que quand il y a toute la classe.
Moi, je trouve que justement, les professeurs ont beaucoup de travail déjà chez eux par rapport à leurs cours. Et je pense rajouter encore plus de classes, c'est encore plus compliqué pour eux. Je sais ce que c'est parce que ma mère, justement, travaille dans l'éducation nationale et c'est une charge de travail, immense. Donc, rajouter des classes, ça serait vraiment presque impossible des fois pour eux.
Après, ça ne changerait pas grand-chose vu que le nombre d'élèves resterait le même en soi. C'est juste qu'ils seraient répartis différemment.
Moi, je suis d'accord avec Lola, j'ai pas trop compris l'argument d'avant. Je comprends que, du coup, c'est ta mère qui est prof. Je comprends que ce soit une grosse charge de travail, mais comme Lola l'a dit, le nombre d'élèves en soi, il change pas. C'est juste qu'il y a plus de classes, mais les cours restent les mêmes. Le nombre de copies à corriger, c'est la même chose. Et puis, ce serait peut-être plus plaisant aussi pour les profs, mine de rien, qu'il y ait moins d'élèves. Ce serait peut-être plus pratique pour eux aussi en étant en classe.
Et du coup, ça permettrait un meilleur accompagnement des élèves et une progression énorme pour les élèves, vu que ça fera plus, ce serait plus du cas par cas.
À quoi ressemblerait, selon vous, un lycée idéal ? Est-ce que ce serait un lycée sans grilles, sans barrières, donc un lycée plutôt ouvert ?
Pour moi, en fait, les grilles, elles servent pas tellement à grand-chose, puisqu'au final, personnellement, dans mon lycée, on peut rentrer, n'importe qui peut rentrer avec une grande facilité, donc pour moi, les grilles servent à rien.
Ce que tu dis est complètement faux, je trouve, parce que justement, ça permettrait à des gens de pouvoir rentrer, peut-être des personnes avec des mauvaises attentions, comme des attentats, par exemple.
Moi, je pense que les grilles, ça sert à rien s'il y a des attentats, parce que je pense que si quelqu'un il veut vraiment faire un attentat, il trouvera quand même une solution pour le faire. Donc, qu'il y ait des grilles ou pas, je pense que ça va rien changer.
Mais en soi, on peut pas dire le nombre d'attentats qui a été déjoué avec les grilles, quoi. On ne peut pas savoir, peut-être qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas eu lieu grâce à ça, justement.
Et à chaque fois, les terroristes, ils rentrent par la porte, justement.
Je sais que si vraiment quelqu'un veut rentrer, c'est pas compliqué d'accéder à un endroit, même s'il y a des grilles. Quoi. Je veux dire, il y a bien des élèves qui arrivent à sécher dans les collèges en passant par-dessus les grilles, parce que c'est pas difficile de s'échapper. Donc quelqu'un qui veut vraiment rentrer, il rentre.
Justement, tu parles des élèves qui veulent sécher. Par exemple, au lycée, on sort et on rentre comme on veut, on vérifie pas l'emploi du temps. Mais au collège, on le vérifie. Donc s'il n'y a plus de grilles, on vérifie plus. Donc il y en a plein qui pourraient sécher encore plus.
Et c'est comme dans une maison. Dans ton jardin, par exemple, tu as des grillages justement pour éviter qu'il y ait des personnes qui entrent. C'est la même chose.
Mais le problème, c'est pas parce qu'on est au lycée qu'on est forcément mature. On a toujours un manque de responsabilité, tout ça.
Puis je veux dire, on parle du lycée, à la limite, on peut se dire, les lycéens, ils ont un minimum de sens moral, ils vont pas aller sécher tous les cours, essayer de s'échapper, escalader dans les grilles et tout. Mais quand on parle d'un collégien qui a 11-12 ans, tu m'excuseras, il a envie de s'en aller, il s'en va, alors qu'il y ait des... Donc s'il n'y a pas de grilles, il va jamais aller en cours, il aura toujours envie de s'échapper. Donc quand on parle d'un petit collégien de 12 ans, moi je trouve pas ça... logique de dire de parler de maturité, de dire il va rester dans le lycée, dans le collège et tout, c'est pas logique.
En plus au lycée, je connais beaucoup de personnes qui sèchent, c'est pas des grilles tout ça qui vont les bloquer, quoi.
Mais pareil, on peut aussi parler du fait que le lycée ressemble plus à une prison avec les grilles. Peut-être qu'on serait plus, enfin, moins contre le fait d'y aller s'il n'y aurait pas justement ces grilles qui nous feraient penser à quelque chose de trop professionnel, trop carré.
Mais même si les grilles, ça n'empêche pas le mal, déjà, de un, ça rassure, on va dire, les parents, même nous un peu quand même, de se dire qu'il n'y a pas 100 personnes qui vont débarquer comme ça d'un coup, et bon, ce n'est pas leurs intentions. Et surtout que, bah, on aurait forcément la peur de ce qui pourrait arriver, parce qu'on sait jamais, façon de, on sait jamais ce qui peut arriver de toute façon le lendemain, ou même bah, avoir le plus de sécurité, ce que je veux dire, c'est toujours mieux.
Et si vous parlez que Madéry, ça fait prison, bah, si on parle de ce principe-là, c'est-à-dire qu'une maternelle, une primaire, un collège, un lycée, une fac, un parc, enfin n'importe quoi avec des grilles, ça fait tout de suite prison. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on va pas associer le fait d'une prison avec un grillage. Enfin, je trouve pas ça logique d'associer les deux. Mais bon.
Enfin, un grillage, c'est juste une délimitation. Il n'y a pas de tout de suite une vision, bah ouais, prison, en mode on est confiné à l'intérieur.
Puis on peut prendre aussi l'exemple du sport. Par exemple, en seconde, on a fait de la course d'orientation. On était à l'extérieur, ça n'avait pas de grille. Et que certains décidaient de, comment dire, d'aller s'amuser un peu plus loin, tout ça. S'il leur arrive quelque chose, que ce soit sur la route ou quoi, bah, c'est la responsabilité des profs.
Et voilà, nous y sommes. Nous espérons que vous avez aimé notre débat sur l'école, que nous vous avons ouvert les yeux sur certains points. Nous remercions nos chers journalistes de Guimolé, Lola, Kélia, Lisa, Pierre, Ève, Morgane, Chloé, Gauthier, Savannah et Célia. Nous remercions également notre professeur qui nous ont grandement aidés durant ce projet radio, Madame de Rancourt et Monsieur Morel. Nous remercions bien évidemment la radio PFM avec Nicolas et son équipe qui nous permet de pouvoir également réaliser tout ça. Et bien évidemment, nous remercions les uniques, les incroyables, nous dirons même les incommensurables présentatrices de cette radio qui sont Chloé et Anaïs. Oh, qui a écrit ça, sérieux? Vous n'étiez pas obligés, on est des femmes modestes, vous auriez pu nous mettre avec tous les autres, voyons. Portez-vous bien et à la prochaine, c'était Radio Guimau, la meilleure radio du lycée Guimolé et surtout l'unique. Thank you.